Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais mon masque, c'est quand même mieux. En tout cas, je voudrais d'abord remercier les responsables de l'église, donc les deux pasteurs, donc Philippe et Daniel, pour, ainsi que tous les diacres, tous les responsables, donc en tout cas qui m'ont accepté en tout cas au sein de cette église pour effectuer mon stage de quatrième année. Et mon épouse et moi, en tout cas, on est ravis d'être avec vous cette année pour pouvoir effectuer ce stage. Merci en tout cas déjà pour votre bon accueil envers notre famille. Et donc je rappelle, pour ceux qui sont là pour la première fois, que depuis la semaine dernière, nous avons entamé une série de prédications ayant comme thème le retour de Jésus, donc basé sur l'évangile de Matthieu. Et c'est notre frère Michael donc, qui a eu ce privilège de commencer. Et quelqu'un se rappelle de comment il avait introduit son message ? Black Friday. Donc effectivement, avec l'événement du Black Friday. D'ailleurs, est-ce que certains ont profité de cet événement ? Personne a saisi l'occasion quand même. Bon, il n'y a pas une assez bonne pub, Michael, hein, désolé. Et donc, ce que nous avons vu la dernière fois, suite à sa prédication, donc à partir du texte de Matthieu 24, versets 21 et suivants, Michael nous a exhorté à considérer le retour de Christ, non pas comme un événement très lointain, mais que cela peut arriver d'un instant à l'autre. Et donc, comme il l'a rappelé, je ne sais pas si vous avez vu, le Holy Everyday, il y aura de faux Christ, de faux prophètes qui surgiront. Et que face à cela, nous devrons être vigilants. Nous devrons faire preuve de discernement. Il nous a aussi encouragé à nous tenir prêts en nous expliquant la parabole des 10 jeunes filles et de l'argent à faire fructifier. Et aujourd'hui, dans la continuité de notre série sur le retour de Jésus, nous verrons un autre enseignement que rapporte Matthieu avant la seconde venue de Christ. Et avant que nous méditions en profondeur le texte, je rappelle que l'évangile de Matthieu est composé de 5 grands discours. Donc le sermon sur la montagne, peut-être que celui que chacun connaît, donc au chapitre 5 à 7. Nous avons également l'envoi missionnaire des apôtres, donc au chapitre 10. Nous avons ensuite le discours des paraboles sur le royaume de Dieu, au chapitre 13. Nous avons le discours sur la vie fraternelle, au chapitre 18. Et finalement, nous avons le discours sur la fin des jours qui commence au chapitre 24 à 25. Certains le commencent au chapitre 23. Et donc, notre passage clôture le dernier discours de Jésus avant son arrestation, sa mort et sa résurrection. Et chaque discours a son importance. Au fur et à mesure que nous les parcourons, nous découvrons toujours plus la vie, le ministère et le message de Jésus. Et dans notre passage qui clôture son discours, il n'est plus question de se tenir prêt quant au retour de Jésus, mais le texte nous place dans la situation où Jésus est revenu. Cet extrait va nous révéler si justement nous avons su nous tenir prêt. Est-ce que nous nous sommes conduits d'une manière digne du Seigneur ? Car le jugement tombe. Et face à ce jugement, il y a seulement deux sorts. La vie éternelle ou le châtiment éternel. Frères et sœurs, et si Jésus revenait maintenant, serions-nous prêts ? Serions-nous dans la joie, dans la paix, ou au contraire, dans la peur, dans la tristesse ? L'évangéliste Matthieu, dans ce passage, veut encourager ses auditeurs à prendre conscience que leurs actes d'aujourd'hui ont des conséquences pour l'éternité. Et j'aimerais, tout comme l'auteur, nous encourager cet après-midi à prendre conscience que nos actes, nos attitudes ont des conséquences pour l'éternité. Tout d'abord, voyons qui est celui qui va rendre le jugement. Le verset 31 nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Je rappelle que Matthieu, dans son évangile, s'adresse à un lectorat juif. L'évangéliste a le souci de montrer, par ses nombreuses citations de l'Ancien Testament, que Jésus est celui qui accomplit les prophéties. Jésus, à plusieurs reprises pour parler de lui, se nomme le Fils de l'homme. Matthieu emploie ce terme ici pour que ses auditeurs comprennent une vérité. Le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire, prendre place sur son trône glorieux, n'est autre que le Fils de l'homme présenté dans la vision de Daniel. Et voici ce que nous dit le prophète Daniel au chapitre 7. « Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Cette vérité doit amener l'auditeur à reconnaître Jésus en tant que tel. Il est le roi dont le règne est éternel. Jésus reviendra de manière visible. Luc nous dit en Actes au chapitre 1er, « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé au milieu du ciel, au milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Jésus reviendra dans sa gloire, revêtu de splendeur et de magnificence. Il siégera sur son trône. Lorsque Jésus est monté au ciel, Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite. Et il faut savoir que lorsqu'un souverain faisait asseoir quelqu'un à sa droite, c'était une place d'honneur. Par exemple, nous lisons dans Actes, dans le premier livre des rois, au chapitre 2, voici ce qui est dit. « Elle se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonia. Le roi se leva pour aller à la rencontre de sa mère. Il se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. Il fit placer un siège pour sa mère à sa droite. » Ou bien dans le psaume 110, au premier verset, psaume de David, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. David parle de la droite de Dieu comme d'une place où les ennemis sont mis sous les pieds du roi. Le roi règne sur ses ennemis. Cette place évoque donc la notion de pouvoir et d'autorité. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens au premier chapitre que Dieu a fait asseoir son Fils à sa droite dans le monde céleste pour effectuer une autorité suprême. Je lis ce qu'il dit. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé sous ses pieds, a tout placé sous ses pieds, et c'est ce Christ qui domine toute chose. Il l'a donné pour chef à l'Église. Frères et sœurs, est-ce que nous avons conscience que lorsque nous prions Seigneur Jésus, nous nous adressons à ce roi souverain qui détient tout pouvoir et toute autorité? Nous avons chanté tout à l'heure le chant « Le roi dans sa splendeur ». Est-ce que nous avons mesuré toute la grandeur de ce qu'il est? Voyons la suite du texte. tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. L'auteur ne dit pas « quelques peuples de la terre seront rassemblés devant lui », mais bien « tous les peuples ». Cela souligne encore sa souveraineté. Jésus est le roi qui détient tout pouvoir et toute autorité. Et là, il prononce le jugement. Il est important de noter que Jésus divise en deux groupes, non pas en trois ou en quatre, mais seulement en deux. Deux sorts attend l'être humain. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Le fait que Matthieu parle du roi qui divise toutes les nations en deux groupes, en utilisant l'image du berger qui fait le tri entre les brebis et les boucs, fait sûrement aussi référence à Jésus qui s'est présenté comme le bon berger en Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc, nous apprenons que les brebis sont placées à sa droite et que les boucs à sa gauche. Et là également, nous pouvons nous poser la question, le fait de placer les uns à droite et les autres à gauche, est-ce qu'il y avait une signification? Et là, l'écriture, elle est moins explicite. Ce qui est surtout important, c'est qu'est-ce que le roi dit à propos des brebis et des boucs? Sur quoi il va mettre l'accent? Lisons à partir du verset 34. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes petits frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez pas donné, rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors, il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceci, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Dans ces versets, nous voyons les raisons pour lesquelles les uns sont bénis et prennent possession du royaume, tandis que les autres sont maudits et iront dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Une raison, c'est que pour les uns, Dieu est celui qui choisit d'avance ceux qui prendront possession du royaume. C'est ce que dit le verset 34. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » L'apôtre Paul exprime la même idée que dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 1er. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Et donc, il est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre que Dieu destine certains à la vie éternelle et d'autres pour le feu éternel. Mais ce que nous devons comprendre dans ce verset, c'est que Satan et ses anges seront jugés les premiers. Mais aussi que Dieu n'agit pas de la même manière lorsque l'être humain agit mal. Comme le dit un de mes professeurs, Sylvain Romerowski, il y a une différence entre la manière dont Dieu exerce sa souveraineté sur le bien et le mal. Lorsque nous faisons le bien, c'est parce que Dieu nous a donné de le faire. Il a produit en nous le vouloir et le faire. Donc Philippiens 2, chapitre, verset 12. Et il en mérite la louange. Par contre, Dieu ne porte en aucune façon la responsabilité du mal. Et il cite Habacuc au chapitre 1er. Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Et après avoir vu une des raisons pour lesquelles les uns sont bénis et les autres maudits, voyons-en une autre. Jésus va maintenant mettre l'accent sur les actes des uns et des autres. Il prend le soin de répéter tous les actes réalisés. Il cite tout ce qu'ils ont fait envers lui. Donner à manger, à boire, accueilli, vêtu, visité, ou au contraire, qu'ils n'ont pas fait tout cela. Et il commence par ceux qui sont à sa droite, qui nomment les justes. Et pour Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la faculté de Vaux-sur-Seine, les justes sont apparemment des gens qui ont appliqué à la lettre ce commandement de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est la réponse des justes au verset 37 à 39. En fait, même eux ne savent même pas qu'ils ont accompli tout cela. D'après certains commentateurs, cela souligne des actes de pure bonté sans arrière-pensée. Oui, lorsque les justes font de bonnes actions, ce n'est pas pour être vu de tous, se faire remarquer, se mettre en avant, mais des actes de pure bonté. Ensuite, Jésus leur explique que les actes qu'ils ont accomplis envers les plus petits de ses frères, que c'est à lui qu'ils les ont faits. Et plusieurs spécialistes pensent que les plus petits de mes frères correspondent aux disciples de Jésus. Et qu'est-ce que cela souligne, le fait que Jésus dise qu'en ayant une bonne conduite envers les disciples, c'est envers lui en fait qu'ils le font. Dans Matthieu, au chapitre 10, Jésus dit ceci. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui accueille celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. En disant cela, Jésus veut souligner le lien étroit qui existe entre lui et ses disciples. C'est une vraie communion. Prendre soin des disciples, c'est prendre soin de Jésus. Nous voyons également l'exemple de Paul. Lorsque le Seigneur Jésus vient à son rencontre, il lui dit « Saul, Saul, mais pourquoi me persécutes-tu » alors que le Seigneur n'est pas avec lui, mais avec les croyants. En persécutant les croyants, c'est lui que nous persécutons directement. Et Matthieu souligne l'importance des actes. Il prend le soin de répéter les actes accomplis des uns et des autres. Lorsque Jésus énonce aux bénis et aux maudits ce qu'ils ont fait ou pas, il aurait pu juste dire une fois, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Vous les justes, vous avez accompli tout cela. Et vous les autres, non. pour la réponse aussi des uns et des autres, ils ne disent pas simplement « Quand est-ce que nous avons manqué de te faire tout cela ?» Mais bien « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger ?» Ou « Assoiffé et avons-nous donné à boire ?» Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli ? Ou nu et avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes venus vers toi ? Et donc, on peut voir que tous ces détails nous montrent combien les actes sont importants. L'apôtre Paul va le souligner à plusieurs reprises dans ses lettres, par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 2. Il traitera chacun conformément à ses actes. Ou bien encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, « En effet, il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Frères et sœurs, c'est bien par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Notre passage ne le mentionne pas directement, mais nous le savons à la lumière de l'ensemble des Écritures. Ce texte souligne et met en avant les actes accomplis. Voyons ce que Jacques, le frère de Jésus, dit dans sa lettre. Donc Jacques, dans son deuxième chapitre, voici ce qu'il dit. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-il le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela leur sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Notre foi doit nous pousser à agir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte pour le Seigneur. Et dans ce passage, il est question de bien agir envers les personnes, envers la personne même de Jésus. Lui, le roi souverain. Mais par quel moyen ? En ayant une bonne conduite envers les disciples. Car comme nous l'avons souligné, il existe une réelle communion entre lui et ses disciples. Mais aujourd'hui, pour nous, comment pouvons-nous bien agir envers les disciples, sachant qu'ils ne sont plus là ? Les disciples sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour communiquer l'œuvre de Jésus, celui d'annoncer la bonne nouvelle, se repentir, croire en Jésus pour le pardon des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Et donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont cru en cette bonne nouvelle, dans une certaine mesure, on peut dire que nous sommes disciples de Jésus. Et donc, concrètement, comment pouvons-nous bien agir de nos jours en ayant une bonne attitude, en prenant soin de ceux qui croient en Jésus ? Car en agissant ainsi envers les chrétiens, c'est envers Christ même que nous le faisons. Soyons-en conscients de cela, frères et sœurs. Lorsque nous agissons bien envers ceux qui appartiennent à Jésus, c'est à lui directement, le roi souverain, que nous le faisons. Cela doit nous encourager de savoir cela. Mais en même temps, cela doit nous mettre en garde de l'attitude que nous pouvons adopter à l'égard des frères en Christ, de comment je les traite. Bien sûr, avec l'ensemble des Écritures, nous voyons que nous ne sommes pas seulement limités à bien agir envers les chrétiens, mais envers tous. Jésus lui-même, dans son sermon sur la montagne, a enseigné ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas ainsi de même ? Souvenons-nous que bien agir envers les frères et sœurs en Christ, c'est bien agir envers Christ lui-même. Et lorsque nous avons du mal à agir de la bonne manière envers les personnes, Rappelons-nous comment le Seigneur s'est comporté. Nous devons constamment revenir à l'exemple de celui que nous avons décidé de suivre, Jésus. Et pour cela, nous avons besoin de prendre du temps pour nous plonger dans les Écritures. C'est par elles que la vie de notre roi est décrite. Concernant ceux qui n'ont pas accompli de bonnes œuvres, leurs attitudes sont à l'opposé des justes. Tout ce que nous avons vu à propos des justes, les autres ne les ont pas accomplis. Prendre soin des disciples, croire au message qu'ils annoncent, la bonne nouvelle. Comment peuvent-ils bien agir envers Jésus s'ils ne croient même pas en lui? C'est la foi en Jésus qui produit de bonnes œuvres. De bonnes œuvres accomplies sans la foi en Christ n'est pas le salut. N'oublions pas cette vérité fondamentale. De plus, rappelons-nous que le jugement prononcé est irréversible. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore cru au message de la bonne nouvelle, Jésus, mort pour le pardon des péchés, et ainsi avoir la vie éternelle, sachez qu'il est encore temps. Mais en même temps que le Seigneur ne serait tardé. J'aimerais pour conclure nous rappeler que Jésus est roi. Il mérite toute la louange, l'adoration et les honneurs. C'est lui le roi qui viendra juger toutes les nations. Nous serons tous jugés selon nos actes. Toutes nos œuvres visibles, mais aussi en secret. Prenons réellement conscience de cela. C'est à Jésus lui-même que nous agissons bien lorsque nous faisons envers les siens. Et souvenons-nous que le sort qui nous attend, si nous sommes de ceux qui sont bénis, sera la vie éternelle, alors que ceux qui sont maudits iront au châtiment éternel. Frères et sœurs, si Jésus revenait, pourrait-il dire de nous « Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Ou bien « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Prions ensemble. Oui, Père, merci encore pour ta parole. Seigneur, que nous puissions nous examiner, Seigneur, nous sonder, afin que nous puissions avoir une bonne attitude, Seigneur. Que chaque chose que nous faisons, c'est à toi que nous les faisons, Seigneur. Que nous puissions prendre conscience de cela, que notre bonne attitude envers les autres, c'est envers toi que nous les faisons, Seigneur. Dirige-nous par ton esprit que nous ayons justement une bonne attitude, une manière digne de t'appartenir, Seigneur. Merci encore pour le don de ton Fils à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et rappelle-nous que lorsque tu reviendras, le jugement va tomber, Seigneur. Soit nous irons avec toi, Seigneur, ou bien nous périrons dans le feu éternel. Garde-nous encore pour la suite de ce culte, que nous puissions te rendre encore gloire. Et Père, tout ceci, nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.